Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, la Biennale du 9e art à Cherbourg en Cotentin met à l'honneur Jacques Kirby avec une exposition au musée Thomas Henry, des planches originales, esquisses et sérigraphies du roi new-yorkais de la bande dessinée populaire américaine. Une exposition rétrospective qui couvre la longue carrière de ce dessinateur adulé en tant que créateur graphique des super-héros comme Captain America, Thor, les 4 Fantastiques, les Avengers, les X-Men, Darkseid bien sûr, Black Panther, le Surfeur d'Argent, Iron Man, l'incroyable Hulk, j'en ai sans doute oublié, François Hercoët, directeur éditorial d'Urban Comics, est notre invité ce matin pour évoquer le maître de la culture pop graphique américaine, Jacques Kirby.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Who created or co-created Captain America, The Avengers, The Fantastic Four, The Mighty Thor, Commandy, The Demon, Nick Fury, The New Gods, Mr. Miracle, and dozens of others. One man.
Jack Kirby. He's the guy to blame if your kids or yourself seem to have an unnatural longing to turn on the TV set on a Saturday morning and join the company of some superhero.
Bonjour François Hercoët.
Bonjour.
Qui aujourd'hui est intéressé par les super-héros du XXe siècle créés, dessinés par Jacques Kirby? Des irréductibles nostalgiques
non,
des comics?
Non, enfin, je ne pense pas. En fait, je pense qu'on est vraiment sur une génération plutôt actuelle et qui s'étend, justement, le spectre, je pense, s'est étendu largement ces dernières années, notamment grâce à l'exploitation de ces personnages au cinéma. Également en jeu vidéo, en dessin animé toujours. Donc voilà, il y a une persistance du super-héros depuis les années 80, depuis Tim Burton qui a un peu relancé cette mode du super-héros, en l'occurrence de Batman en 87 ou 89, je ne sais plus exactement. Mais voilà, qui a créé en fait ce succès monumental sur un personnage qui au final avait perdu beaucoup de sa superbe, c'était Batman. Lui a redonné ses lettres de noblesse derrière DC. S'engage sur l'exploitation et le rajeunissement du personnage. Et depuis, Sam Raimi est passé par là. Je n'ai pas évoqué Joel Schumacher, peut-être à dessein, mais voilà, Sam Raimi sur Spider-Man. Et ensuite, Marvel et Disney ont vraiment mis, on peut dire, la gomme sur tous ces personnages, notamment ceux que vous avez pu évoquer en introduction, les Vengeurs ou Avengers aujourd'hui, Iron Man, Hulk, bientôt les X-Men. Donc voilà, on est vraiment sur un public, je pense, qui redécouvre aujourd'hui les personnages qui ont été adulés depuis les années 50-60 en France.
Alors, Jacques Kirby, qui ne va sans doute pas profiter justement de cette manne financière.
Mais ses 4 enfants peut-être.
Jacques Kirby n'a jamais reçu quoi que ce soit sur les adaptations cinématographiques des personnages qu'il a dessinés, puisque ces personnages, ces bandes dessinées appartenaient aux deux grands studios américains que sont DC et Marvel.
Oui, tout à fait. C'est la règle du jeu. Enfin, en tout cas à l'époque, quand vous créez quelque chose, un super-héros, un super-vilain, bref, quelque chose qui soit déclinable en licence, eh bien là, cette propriété intellectuelle appartient de facto à l'éditeur. Donc c'est quelque chose qui est écrit dans tous les contrats, soit de DC ou de Marvel. Il existe heureusement un autre modèle également qui, dès la première case dessinée, la création appartient à ces auteurs. Donc c'est des éditeurs comme Image Comics, par exemple, qui ont créé un peu une troisième voie. Mais en ce qui nous concerne, oui, effectivement, ça fait partie des règles du jeu. Avec maintenant, aujourd'hui, quand même, les succès étant tels, notamment ceux de Batman, de Superman avant lui, ou même des personnages de Kirby, c'est que les créateurs et co-créateurs sont reconnus de manière parfois malheureusement posthume. Heureusement, ce n'a pas été le cas de tous les créateurs de super-héros.
Bonjour, Louise Allais, je rappelle, vous êtes conservatrice du musée Thomas Henry à Cherbourg, qui consacre donc cette rétrospective à Jacques Kirby. Ici en France, c'est d'abord l'auteur qu'on célèbre.
Oui, absolument. L'idée de cette exposition, c'était de rendre hommage à l'homme derrière les super-héros, l'homme derrière les comics. Et cet homme, c'est Jack Kirby. Et c'est vrai qu'il a une carrière extrêmement longue, hein, qui court sur plus de 60 ans, avec une production qui demeure du début à la fin d'une qualité relativement constante, ce qui est assez rare. Une production qui est extrêmement abondante, puisque Kirby, c'est un fou de dessin. Il passe ses jours, ses nuits enchaînés à sa table à dessin. Donc voilà, on voulait présenter toute cette production pléthorique donc de planches originales dessinées par Kirby et la genèse de tous ces super-héros que vous avez cités tout à l'heure.
Jacques Kirby, la galaxie des super-héros, c'est le nom de cette expo rétrospective rendue donc au maître des comics. C'est donc à Cherbourg, dans votre musée Thomas Henry, jusqu'au 1er septembre. Les planches originales de Jacques Kirby, ce sont des planches que vous avez récupérées de chez des collectionneurs français et européens?
Oui, tout à fait. Les planches proviennent exclusivement de collections privées européennes. C'était aussi un de nos souhaits que de montrer que si des tableaux impressionnistes étaient aujourd'hui aux États-Unis, eh bien en France, en échange, nous avions des dessins originaux de maîtres de la bande dessinée, dont Jack Kirby. Il faut savoir que Kirby avait pu récupérer ses planches originales chez DC Comics et puis également chez Marvel au terme d'un long combat juridique.
Très long combat, on peut le dire, oui.
Et c'était un peu la bataille de la dernière partie de sa vie. Et il a eu finalement un gain de cause. Donc il a pu vendre ses planches originales pour arrondir ses fins de mois, on va dire. Kirby est quelqu'un qui a eu toujours au cours de sa vie un souci principal, c'était de faire vivre sa famille, donc sa femme et ses 4 enfants, parce qu'il vient d'un milieu assez modeste. Il a appris très jeune qu'il devait travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, donc il a pu vendre ses planches originales pour se faire un peu d'argent. Et ses planches sont aujourd'hui conservées par des collectionneurs que nous avons donc contactés avec l'intermédiaire de la galerie 9e Art pour solliciter le prêt de ses œuvres dans le cadre de l'exposition.
Merci beaucoup, Louise Allais. Et vous, François Hercoët, vous qui êtes directeur éditorial d'Urban Comics, vous avez repris quelques bandes dessinées américaines de DC Comics. Et donc quelques histoires lancées par Jack Kirby.
Quelques pavés, oui. En fait, Jack Kirby quitte Marvel, avec qui il est resté 10-15 ans. Et en fait, en 1970, Carmine Infantino, qui est l'éditeur de DC, approche Jack Kirby, le sachant un petit peu en froid avec Marvel et avec Stan Lee, et lui propose de tout simplement lui donner carte blanche chez DC. En fait, tous les projets qu'il n'avait pas pu mener à complétion chez Marvel, et bien voilà, il pouvait tout à fait le faire chez DC. Et c'est la raison pour laquelle du coup Jack Kirby est devenu forcément dessinateur, mais également scénariste et éditeur, puisqu'il s'est quasiment édité lui-même sur une œuvre monde qui a été qualifiée comme telle, qui est le 4e monde, entre autres.
Et c'est pour se débarrasser de cet auteur, partenaire, imposant, un peu encombrant, Stan Lee, qu'on a fêté à juste titre l'année dernière, quand il est mort, et qui était donc le scénariste des histoires dessinées par Jack Kirby chez Marvel.
C'est ça. En fait, ils étaient collaborateurs avec cette méthode aussi qui était très particulière, parce qu'elle est connue dans le monde de l'industrie du comics comme la méthode Marvel, qui en fait consistait à Stan Lee lançait une idée, donc une espèce de pitch vraiment qui pouvait se résumer à une phrase, et le dessinateur était libre de manière très organique sur cette base de pitch de dessiner l'épisode sans les bulles. Et du coup, le texte était rajouté ensuite par Stan Lee. Donc là, on avait vraiment une forme très organique de collaboration, et ce qui a rendu, je pense, assez compliqué, notamment les reconnaissances de création de personnages. On parle vraiment, pour le coup, de co-créateurs. Il faut vraiment, à chaque fois qu'on cite Stan Lee, vraiment citer Jack Kirby derrière, Steve Ditko pour la création de Spider-Man. La démarche que nous, on pousse à développer, c'est vraiment à chaque fois de rendre à César ce qui lui appartient, notamment à Jack Kirby, toute la paternité égale de 95% des personnages de Marvel.
Et l'exposition à Cherbourg, justement, nous pousse à rendre hommage à l'auteur Jack Kirby. Hein, on le connaît en tant que dessinateur, tout le monde sait que c'est le dessinateur, mais c'est vrai que Stan Lee a pris toute la place en tant qu'auteur. Or, ce qu'on voit dans cette exposition, et on va en parler avec vous, François Hercoët, on voit que il y avait aussi des indications bien précises pour l'histoire. Jack Kirby ne se contentait pas de dessiner une histoire entièrement imaginée par Stan Lee ou par d'autres scénaristes. Il l'a développé lui-même.
Ah oui, c'est oui.
En laissant des indications. En réalité, Stan Lee n'était que le dialoguiste.
C'est Je pense qu'il y avait quand même dans ce pitch qui lançait les prémices, il y avait quand même une très bonne idée à la base. Mais oui, on va dire que dans l'exécution, Stan Lee posait clairement ses dialogues ensuite, une fois la planche dessinée. Donc on a quand même une création qui a été graphique au niveau de la narration, au niveau du découpage, au niveau du rythme. Tout ça incombait au dessinateur et ici du coup à Jack Kirby. Donc il y a vraiment je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire sur l'héritage de Kirby.
Comment on travaille dans un studio américain comme le studio Marvel ou le studio DC? Parce que tout le monde rappelle aujourd'hui que Jack Kirby était très présent quand on a créé le personnage de Spider-Man, mais il va pas le signer. Ils étaient nombreux à travailler autour de ce personnage.
Alors, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, Stan Lee expliquait que les premières planches, ou les 6-7 premières planches qu'il a reçues, donc du coup sur cette idée de Spider-Man, et bien en fait le rendu de Kirby était tel qu'était Kirby, à savoir très super héroïque, très beaucoup en ligne de force, vraiment qui a une vision en tout cas du personnage qui ne convenait pas à Stan Lee, qui était scénariste certes, mais également éditeur. Donc il y avait aussi du coup une mainmise sur le produit final. Et en fait, simplement je ne sais pas s'il y a une inimitié qui s'est développée à partir de ça, je pense pas, enfin en tout cas pas de ce que j'ai pu lire, mais Stan Lee a préféré en fait le style de Steve Ditko, qui était plus sans doute plus fluide, peut-être plus élastique, moins en force en fait que celui de Kirby. Donc voilà, on sait qu'il existe ces planches de Spider-Man dessinées par Kirby pour le premier numéro de Spider-Man, mais qu'au final voilà, la paternité de la création ou la co-création du personnage, c'est Steve Ditko et Stan Lee.
Près de 200 pièces exposées donc en ce moment à Cherbourg autour de l'œuvre de Jack Kirby. Que nous apprend cette exposition?
Eh bien, déjà, elle commence par de manière très intelligente par exposer. Il y a toute une salle qui est dédiée aux influences de Jack Kirby, avec des auteurs qui sont vraiment, on va dire, en tant que lecteur de bande dessinée et que fan, j'imaginais pas en fait un jour pouvoir poser les yeux sur des planches de Hal Foster, donc Prince Valiant, ou de Al Williamson, ou de tous ces grands noms qui ont constellé vraiment la mythologie du comics et dont Kirby s'est vraiment beaucoup inspiré en recopiant ses héros. Et ce qu'on apprend ensuite, c'est la manière dont il s'est émancipé complètement de ces modèles graphiques qui tenaient quasiment de la gravure. On est vraiment à ce niveau, puisque à cette époque-là, en tout cas, les dessinateurs de l'âge d'or, ou même du pré-âge d'or du comics, étaient pour la plupart des illustrateurs d'affiches, notamment de cinéma ou commercial, qui avaient un niveau graphique qu'on n'imagine même plus aujourd'hui. Et en fait, voilà, la crise arrivant, ils ont dû du coup se reconvertir dans le comics, faute de mieux. Et bref, il y a eu un niveau énorme au niveau graphique dès les premiers âges les premières années du comics. Et Kirby, voilà, s'en est inspiré, puis émancipé jusqu'à créer son propre style, qui est reconnaissable maintenant, qui vraiment, on peut pas en fait confondre le style de Jack Kirby avec un autre. On est vraiment dans quelque chose de très énergique. Il y a des marques, il y a vraiment des marques stylistiques. On peut notamment évoquer les Kirby Crackers, donc qui sont ces espèces d'explosions d'énergie à chaque coup donné. C'est là aussi la manière dont il constelle ces univers. Il y a également l'invention, l'utilisation assez systématique de la splash page. La splash page, en gros, c'est cette pleine page qui est fait vraiment aujourd'hui la marque de fabrique des comics modernes. Encore aujourd'hui, quand on veut marquer une scène spectaculaire, on va employer la splash page. Et même là, c'est la création de Jack Kirby, la double splash page, donc c'est encore plus, c'est vraiment toujours la devise de Kirby, c'est toujours plus, c'est voilà, on est vraiment
et en même temps c'est de son époque, parce qu'il va il va vivre ce moment où la bande dessinée publiée par les journaux va passer au livre, à la bande dessinée, aux comic books.
Pas le livre, pas tout à fait. Parce qu'on n'est pas vraiment sur ce mode de publication. On reste quand même sur cette
revue,
sur du souple. Le livre, lui, arrivera plutôt fin 70, années 80. Mais on peut dire qu'il a, quand il notamment il travaille sur le Quatrième Monde dans les années 70, il a déjà en tête cette histoire, on va dire complète, qu'il imagine dans des volumes reliés. Oui, ça c'est quelque chose qui existait avec Will Eisner, avec d'autres personnages comme ça qui ont un peu balisé l'histoire du comics moderne. Et quand je vous dis voilà que c'est un personnage plus grand que nature, c'est que vous pouvez regarder notamment que ce soit dans le lettrage français ou le lettrage américain, c'est chacune de ces phrases se termine par un point d'exclamation. pour vraiment du coup signifier la puissance, même au-delà, même une phrase chuchotée sera terminée systématiquement par un point d'exclamation.
Il y a même des cases avec juste des onomatopées.
Tout à fait.
Et ça, c'est le style Jack Kirby. Est-ce qu'il a évolué, puisque cette exposition est aussi une rétrospective de son œuvre?
Bien, en fait, comme vous l'avez signifié, c'est que il a commencé dans les années 40. Il a créé Captain America dans les années 40, enfin en 1941 avec Joe Simon. Puis vient la guerre, donc où il a, on le sait, grâce notamment à toute la relation épistolaire qu'il a eue avec sa femme Rose, qui l'a énormément marqué. La guerre, quand il participe notamment au débarquement
ici en France, oui. Hein.
Ici en France, tout à fait. Il a libéré la région de la Moselle, entre autres. L'a vraiment marqué à vie. Il a fait partie d'un.
Il a vu des morts autour de lui. Il a enjambé des cadavres.
Il est l'un des seuls à avoir échappé de son bataillon, puisque il sera renvoyé aux États-Unis à cause d'une blessure à la jambe. Et on apprend notamment dans une des expositions qui a eu lieu l'année dernière en Moselle, rendant hommage à Kirby à son engagement pour la libération de la France, que le bataillon qu'il avait laissé allait faire face dans les semaines qui suivaient son départ à une troupe de SS qui revenait du front de l'Est, et ils ont tous été éradiqués. Donc voilà, on a échappé de peu, alors toute proportion gardée, mais Kirby a réchappé de la guerre avec cette soif, cette force de vivre qu'il a ensuite retranscrit et dilué dans chacune de ses pages. Enfin, dilué, et c'est pas forcément le bon mot.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
There's just something about you. I simply adore. This is what keeps us together and makes my love for you grow. Oh, oh, oh. I found more joy in you, my darling, than I could ever find in any other girl. And I wouldn't trade it, oh no, for nothing in this world, babe. Should ever choose another, it will shatter all of my dreams. But my love will still pour for you, darling, pour like water from a flowing stream. Oh, oh. If you should ever leave me, it will surely, surely, surely grieve me. I wouldn't wanna the love you give, 'cause I need you badly. I love you, love you, love you, love you, love you madly.
Jack Kirby à l'honneur à Cherbourg, l'exposition La galaxie des super-héros. C'est jusqu'au 1er septembre au musée Thomas-Henry, et nous sommes avec François Hercouet. Nous avons visité cette exposition. On parlait du caractère rétrospectif, puisque on a toutes les époques de Jack Kirby dans cette exposition.
C'est ça. C'est qu'en fait, Jack Kirby, donc, après avoir créé Captain America en 41, part à la guerre, en revient traumatisé comme il se doit. Et il faut savoir qu'après, le temps d'après-guerre n'est pas forcément au développement des super-héros. Au contraire, ils vont perdre leur super popularité. On parle un petit peu d'un changement d'air. On passe de l'âge d'or à l'âge d'argent. Et ce qui va avoir le vent en poupe, ça va être la science-fiction et les comics de romance. Et c'est quelque chose que Kirby va... En fait, il va retrouver son collaborateur, Joe Simon, pour justement creuser cette veine. Et dans des œuvres qui vont être... après, c'est un jugement personnel, mais assez naïf. Mais en tout cas, dont je pense le public de l'époque avait besoin. Et c'est vraiment dans les années 60 qu'il va revenir à au super-héros, avec notamment cette collaboration avec Jack Kirby.
Avec
Stanley, tout à fait. Et jusqu'à du coup son départ de chez Marvel, et il arrive du coup mettre à bord chez DC avec cet univers à développer. Et on parlait tout à l'heure de l'évolution des techniques, et c'est quelque chose qui va se passer au milieu des années 70, où il va commencer à expérimenter des non plus seulement du dessin, mais également du collage. Il va prendre des photos, créer des fonds et des décors vraiment hors de ce monde. C'est des choses qui n'existaient que dans sa tête. Alors je ne connais pas la raison pour laquelle il n'a pas dessiné ces décors plutôt que les avoir interprété à travers des collages.
Faut dire que les décors n'ont jamais été le point fort de Jack Kirby. Il préférait se concentrer sur les personnages, non?
Effectivement, les personnages, quand vous regardez une planche de Kirby, prennent beaucoup de place. Ils sont toujours à l'avant-plan. Mais il y a également un détail fou sur tout ce qui est technologique. Et après, on a, je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion notamment d'aller voir l'exposition à Cherbourg, de voir toutes ces planches non ancrées sur les détails qu'il mettait dans toutes les machineries, puisqu'il a fait beaucoup, du coup, de science-fiction. Il imaginait toutes ces machines qui, bien sûr, n'ont pas été créées par des ingénieurs, donc elles n'ont aucune chance de fonctionner, si ce n'est qu'avec la force de l'esprit et de la conviction qui animait Kirby. Mais il y avait un degré de détail qui parfois était tel que, en gros, les encreurs, donc les personnes dont le travail est d'ancrer la planche pour qu'elle soit ensuite colorisée, bien les encreurs souvent n'ancraient pas l'intégralité des détails puisque c'était beaucoup beaucoup trop de travail. Donc on a vraiment ce besoin en fait qu'il avait de dessiner aussi pour de manière très prosaïque, comme le rappelait Louise tout à l'heure, c'est que il avait besoin de faire vivre sa famille et que le prix à la page était très faible. Donc il avait vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui une surproduction.
Il était
sur 4 séries par mois. Enfin, c'est quelque chose qui ferait saillir ou défaillir plutôt un auteur de bande dessinée franco-belge. Mais on était vraiment avec cette force de la nature qui ne prenait même pas le temps de regarder son travail ancré. C'est vraiment, il abattait ses planches avec un crayonné très très poussé, mais il ne regardait ni le résultat ancré ni le résultat colorisé. Vraiment, le produit fini ne l'intéressait pas. Il fallait absolument qu'il avance, qu'il développe toutes ses idées sur le papier.
Alors, oublions les super-héros que tout le monde connaît. Comment vous, François Hercouët, vous reconnaissez le trait de Jack Kirby?
Moi, je le connais à travers le prisme souvent des encreurs. C'est qu'en fait, l'ancrage est vraiment cette forme finale que le lecteur connaît. Donc on a quelque chose d'assez épais, on a beaucoup de lignes droites, beaucoup de lignes de force aussi, alors qui ne sont pas définies comme telles, mais qui...
Les fameux aplats noirs aussi, rappellent l'univers de Jack Kirby.
Voilà, les Kirby Crackles, vraiment toute cette grammaire qu'il a au fur et à mesure développée. Et puis ces personnages ont toujours l'air de crier avec cette forme de bouche très particulière, également la forme des crânes qui est assez carrée, ce qui fait que même pour les personnages féminins, on se retrouve avec des physiques assez dures. Je pense notamment aux physiques de Big Barda, qui est l'une des furies du quatrième monde. Donc c'est guerrière née sous les ordres de Darkseid, donc un proto Thanos pour faire simple. On est vraiment sur la figure. On connaît Wonder Woman et sa carrure d'Amazon, et bien les Furies sont au-delà même du coup de cette idée de puissance, de cet idéal qu'il avait sans doute, je pense, de vouloir dépasser sa condition d'humain, peut-être en un être qui soit inattaquable, inaltérable par toutes les horreurs de la guerre, qui sont au final le quotidien des super-héros. Donc, je pense qu'on avait vraiment cette volonté de... Je pense que c'est la même volonté qui participait de la création notamment de personnages comme Superman, de personnages qui ont été créés par des fils d'immigrants juifs qui, voyant en gros peut-être l'inaction ou l'absence d'intervention divine au moment où le mal se propageait en Europe, eh bien ont décidé de créer leur propre golem. C'est, je pense, une interprétation assez valide en ce qui concerne Jerry Siegel et Joe Shuster, les créateurs de Superman. Et je pense que dans l'œuvre de Kirby, il y a également cette volonté de pallier à une intervention divine, à pouvoir se créer des modèles qui puissent remplacer peut-être un dieu absent.
À partir de quel moment Jack Kirby est célébré aux États-Unis?
On va dire qu'il a toujours été révéré.
Dans le milieu, bien sûr,
voilà,
tout le monde.
Voilà, il y a l'expression artiste, donc les artistes, les auteurs à hauteur, donc les auteurs que seuls les auteurs parfois révèrent. Je pense qu'il faudra vraiment attendre les Vengeurs. En tout cas, ces créations Marvel.
Avengers,
selon l'appellation moderne. Mais voilà, je pense qu'on est avec les X-Men, avec Hulk, avec Thor, avec Captain America. Captain America a été créé bien avant. Mais voilà, il faudra attendre les années 60. Vu que le comics à l'époque, en tout cas aux États-Unis, il y a vraiment deux choses à distinguer, la France et les États-Unis, mais aux États-Unis, il a eu assez rapidement en fait cette fanbase, en fait cette communauté de personnes qui le suivaient de convention en convention, et il a eu très tôt en fait des jeunes enfants ou des jeunes adultes déguisés dans ses créations, enfin en tout cas aux allures de ses créations. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit... Alors malheureusement, c'est ce que vous pointiez tout à l'heure, il n'est plus là pour en profiter, mais cet héritage est toujours présent, notamment à travers le travail qu'a fait toute l'équipe de Cherbourg au niveau de l'exposition, et c'est ce qui nous rend extrêmement heureux en tant qu'éditeur de voir cette œuvre-là se perpétuer, et surtout être accessible à un autre public que les lecteurs de comics et, on va dire, étendu. Mais on a vraiment cet héritage qui est repris également par les auteurs modernes. C'est qu'on des auteurs comme Geoff Jones, comme Jim Lee, comme Scott Snyder, comme Grant Morrison ont, pour ne citer que des auteurs d'ici, ont repris tout l'héritage que Kirby a laissé presque en friche en fait chez DC, tout cet univers de nouveaux dieux, de néo-dieux, les New Gods, notamment du quatrième monde, sont un héritage qui sert aujourd'hui à raconter de nouvelles histoires. Donc on est vraiment du coup sur cet héritage encore très très vivant de Jack Kirby, même dans l'univers DC.
Merci beaucoup François Hercouët. Je rappelle que l'exposition Jack Kirby, la galaxie des super-héros, est à voir à Cherbourg, au musée Thomas Henry, et ça dure jusqu'au 1er septembre. Merci d'être passé.
Merci à vous.
Le Réveil Culturel, c'est tous les jours à 6h du matin à la radio, quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast, disponible sur franceculture.fr. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la technique Manu Couturier. On se retrouve demain, et demain c'est mercredi, tous les mercredis on parle cinéma. Bonne matinée sur France Culture.